Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Est-ce que vous êtes sur les charbons aujourd'hui ?
Les charbons ardents, comme la flèche du même nom ?
Exactement, vous m'avez bien suivi, puisque c'est l'album que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Alors un album qui est paru aux éditions Blake et Mortimer. Et pourtant, ce n'est pas un B et M. Mais par contre, c'est quand même un album avec des auteurs qui ont repris Blake et Mortimer. Alors on va faire tous les liens nécessaires, possibles et imaginables. Il y a pour cet album au scénario un certain Jean Van Hamme et puis au dessin Christian Caillot et Étienne Schrader. Alors on les a vus, pas forcément ensemble, mais dans la même collection effectivement chez Blake et Mortimer. Expliquez-nous le pourquoi du comment, Thierry, s'il vous plaît.
C'est vrai que La Flèche Ardente, c'est une capsule temporelle qui va nous ramener au début dans la bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, créateur de Blake et Mortimer. C'est l'évocation de ce travail très particulier réalisé par le grand EPJ, par des auteurs d'aujourd'hui qui font partie de ceux qui ont prolongé son œuvre avec des albums tout à fait remarquables. Je parle des dessinateurs, mais je pourrais parler aussi du scénariste. Je parle moins du scénariste parce que il a moins œuvré dans cette reprise de haut vol. D'ailleurs, l'approche de Van Hamme est intéressante parce que c'est à la fois quelqu'un qui est dans la vénération, enfin dans la reconnaissance, dans la célébration, et il y met malgré tout une certaine distance ironique. Je pense au dernier Espadon qu'il avait scénarisé, où on voit quelques traits un peu humoristiques, voire moqueurs, qu'on n'avait pas l'habitude de voir utiliser sous cette forme dans la série Blake et Mortimer. C'est un peu le cas aussi dans La Flèche Ardente. Rembobinons la pelote. Et Jacobs, avant-guerre, c'est un chanteur d'opéra. C'est un fou de musique. C'est quelqu'un qui fait carrière dans le nord de la France et en Belgique en tant que baryton. C'est quelqu'un qui est dessinateur. Dès son enfance, il a été un dieu du dessin. Il a fait les Beaux-Arts de Bruxelles, donc il a une formation classique assez remarquable. Il a une particularité, c'est qu'il dessinait pour les catalogues publicitaires des grands magasins. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos dans ces catalogues, il y avait des dessins. Donc, il maîtrise le dessin et la couleur. Ce qui fait qu'il va être approché pendant la guerre par Hergé, qui a besoin de sortir directement en couleur les nouveaux Tintins et de mettre en couleur, de toiletter les anciens albums. Mais c'est quelqu'un qui, pour ce qui nous occupe, va être approché par les publications Bravo, qui édite en Belgique la série Flash Gordon. Flash Gordon, c'est de la science-fiction qui maintenant, il faut bien s'en rendre compte, a près d'un siècle. De la science-fiction un peu naïve, très bien dessinée, c'est de la très belle ouvrage, mais c'est américain. Et dans les premières années de la guerre, tout ce qui vient d'Amérique est censuré par l'occupant nazi. Donc le directeur de cette publication va demander à Jacobs, qui a déjà travaillé dans son journal en tant qu'illustrateur, il va lui demander de terminer les planches de Flash Gordon. Jacobs, d'un tour de force, va terminer l'histoire en 5 planches et le dénouement ultime, c'est en 1 planche. Donc c'est littéralement le méchant saute en parachute de la tour, il arrive en bas et pouf, il est capturé et voilà, c'est fini. Et on va lui demander de réaliser un pseudo Flash Gordon. C'est un paradoxe dès le départ dans la carrière de Jacobs, c'est que c'est un fou d'histoire et il va être souvent chargé de réaliser des récits de science-fiction ou d'anticipation. Et il va donc créer ce qui va s'appeler le rayon U. Et le rayon U, c'est le prototype de... Non, ça ne l'est pas, justement. Ce n'est pas le prototype de Blake et Mortimer. Parce qu'on y voit des personnages qui ressemblent diablement aux personnages de Blake et Mortimer. Mais à cette époque, Jacobs n'a absolument pas l'idée de continuer dans la bande dessinée. Il a l'idée de reprendre sa carrière de chanteur d'opéra dès que possible. Et La Flèche Ardente, c'est la suite du rayon U. Et c'est en même temps un hommage amoureux et un peu ironique, on le disait en préambule, à ce fameux rayon U.
Alors là, c'est clair, on a affaire à une Madeleine de Proust. D'ailleurs, le scénariste, hein, ici, Jean Van Hamme, dit à chaque fois qu'il va cesser de faire des scénarios. Mais quand on lui présente un projet qui le motive, manifestement, il est prêt à reprendre la
plume. Il paraît que c'est parfois son épouse qui le pousse à le faire.
Arrêtez.
Je crois l'anecdote concernant le dernier Espadon, c'était... Ou La Flèche Ardente, l'un des deux, c'était que son épouse s'était trouvée dans une soirée avec un des directeurs de collection des éditions Blake et Mortimer, qui lui dit « Mais mon mari rêve de... Il ne vous l'a pas dit. C'est un piège. »
C'est arrivé. Et alors ce piège, pour le coup, il s'appelle
diabolique.
La Flèche Ardente. Et il est diabolique, effectivement. Multiples références pour les connaisseurs. Vous vous replongerez dans la série. Évidemment, ici, là, on a affaire à de la science-fiction qui n'est pas tout à fait d'actualité, qui remonte à un siècle.
Oui, si on y réfléchit, on est quasiment dans les années 20. On a plus affaire avec les récits qui étaient publiés dans les pulps. les magazines à bas prix aux États-Unis. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit pour les lecteurs de bande dessinée des années, on va dire, 80-90, c'est Storm. Storm, c'était un hommage un peu à la Flash Gordon, avec ce mélange d'anticipation, de science-fiction et d'antiquité. On le voit dans ce mélange des costumes, des machines. C'est impérativement à replacer dans son contexte, cet album. C'est un hommage un peu naïf, un peu ironique. C'est un hommage aussi dans le sens où il y a un petit côté quiz, parce qu'au fil de l'album, on va retrouver des références graphiques de Blake et Mortimer. J'en livre deux. Vous allez voir à plusieurs reprises le sous-marin qu'on voit en action à la fin de l'énigme de l'Atlantide. Mais vous verrez aussi un plan qui se situe à la fin du troisième volume du Secret de l'Espadon, quand les troupes ennemies progressent vers la base secrète du détroit d'Ormuz et ils franchissent un pont en pierre. Ce pont est dynamité. Donc c'est citation directe. Je dirais que c'est un album qui vraiment doit être remis dans son contexte et pris comme un hommage au premier pas d'un géant dans la bande dessinée, au premier pas de la BD de science-fiction, à une époque où la BD est encore quelque chose de tout à fait neuf, tout à fait récent, la science-fiction aussi d'ailleurs. C'est pas sans défaut, mais ça a beaucoup de charme.
Et est-ce que ça s'adresse à des connaisseurs, à de vieux lecteurs, entre guillemets, ou à tout le monde, Thierry ?
Alors effectivement, spontanément, je dirais, si je me réfère au profil type du lecteur tel que je le vois acheter dans la librairie BD Fugue Annecy, ce sont des lecteurs d'un certain âge qui connaissent déjà le rayon U, ou qu'ils connaissent de nom. Alors, certains l'ont dans leur bibliothèque, certains le connaissent de nom, et c'est l'occasion pour eux de rattraper le retard, entre guillemets, en achetant le rayon U et la Flèche Ardente. Par définition, ça peut être lu par tout le monde, mais la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est dessiné, on s'adresse à un public classique que je respecte infiniment.
Alors moi, je vais me permettre une petite critique parce que je trouve que La Flèche Ardente fait évidemment référence au rayon U dont on vient de parler, hein, ça c'est clair, mais que ce petit côté suranné, qui est assumé, qui est revendiqué, il est presque trop facile en fait. Et dans le scénario, du coup, alors oui, il y a des enchaînements qui sont extrêmement rapides, un petit peu comme cette dernière page dont vous parliez tout à l'heure.
C'est pas un album qui est sans défaut. Il y a quelques années, il y avait une expression qui faisait fleurir, c'était post-moderne. C'est un peu ça, c'est du néo-rétro, du post-moderne. Quand Jacobs écrit le rayon U, il dessine, on y est quoi, on y croit. On est dans un côté naïf, assumé, qui n'est pas sans arrière-plan, mais qui a un charme enfantin, je dirais presque. Il y a un côté découverte. Dans La Flèche Ardente, des dizaines d'années se sont passées, on fait à la manière d'eux. À la manière d'eux, c'est quand même un petit peu, un peu pâle, un peu palichon par rapport au rayon U qui est... cette occasion, je l'ai relu, qui a vraiment du... Allez, je vais être trivial, ça a du jus, quoi. Le dessin, l'histoire, Jacob, c'était quand même un grand. Et ça n'enlève rien aux qualités de La Flèche Ardente, qui reste un magnifique hommage.
Voilà, c'est plutôt à prendre comme un hommage. Voilà. Un hommage, je le redis, assumé. Et assumé parce que j'ai l'impression que, précisément ici, les auteurs, donc Jean Van Damme, Christian Caillot, Étienne Schrader, eh bien, en fait, ne cherchent pas à faire du neuf avec du vieux. Ils font vraiment du vieux, j'ai envie de dire. Dans le sens où ils ne cherchent pas à éviter les clichés en particulier.
Ah oui, c'est le charme de ce type d'album, c'est de brasser les clichés à plein bras, à pleine main. Alors, je dirais oui et non. Je continue à penser que Van Damme est un peu au milieu du guet en faisant à la manière d'eux et puis en mettant une certaine ironie dans son texte, dans les situations évoquées. Voilà, c'est cliché et demi, mais cliché avec un gros clin d'œil.
Oui, vous trouvez que la place des femmes dans cet album, La Flèche Ardente, c'est un tout petit peu modernisé quand même ?
Alors, très peu.
C'est ce qui m'a semblé aussi.
Mais de ce point de vue-là, effectivement.
Comme une Madeleine de Proust, vous allez pouvoir reprendre le rayon U, bien sûr, et puis poursuivre avec La Flèche Ardente, désormais parue aux éditions Blake et Mortimer. Évidemment, un hommage à Edgar P. Jacobs. Bel hommage de Jean Van Damme, Christian Caillot et Étienne Schrader. Merci beaucoup Thierry pour cette lecture aujourd'hui. Alors, on partira la semaine prochaine dans une autre lecture tout à fait contemporaine désormais. Merci, à bientôt.